Bonjour Mathilde Landier.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
C'est notre langue bien pendue pour parler de langue française à l'école des savoirs. Et on va en profiter grâce à vous pour faire un point sur l'enseignement du français dans le monde, puisque c'est la semaine de la langue française. Vaste programme, parce qu'en dehors des pays francophones, où et pourquoi apprend-on le français en 2009 Moi, je ne sais pas franchement bien. Peut-on discerner quelques tendances aujourd'hui? Où en est-on?
On va essayer de voir, c'est compliqué, on ne va pas pouvoir tout traiter, bien sûr. Mais alors, pour certaines régions du monde, oui, il y a des tendances. Par exemple, si l'on prend un continent comme l'Afrique, on se rend compte que l'enseignement du français langue étrangère y est en expansion. Alors, l'explication, c'est qu'il y a des pays non francophones qui sont littéralement encerclés par des pays francophones. C'est le cas notamment du Nigeria ou du Ghana. Et ils apprennent de plus en plus le français pour pouvoir développer davantage d'échanges économiques avec leurs voisins francophones.
Autre tendance au Proche et Moyen-Orient, cette fois-ci. On va continuer la carte de géographie.
Oui. Oui, on va faire le tour du monde. Donc là, l'apprentissage du français, c'est souvent un peu l'alternative au modèle culturel anglo-saxon. Et puis, le français reste quand même une langue de culture et de promotion sociale. J'avais rencontré Rana, une collégienne qui habite au Caire. Elle m'a expliqué que parler français en Égypte, cela la rendait tout simplement exceptionnelle, d'après elle. Rien que ça. Elle se sent différente des autres et elle pense que davantage de portes s'ouvriront à elle lorsqu'elle cherchera du travail après ses études, par exemple.
Il reste encore beaucoup cette image, c'est vrai, hein, de, enfin, vous me dites si je me trompe, mais de langue de culture, l'attrait de la France éternelle, de la culture française.
On le retrouve beaucoup. Alors, on le retrouve notamment dans certains pays d'Asie comme la Corée et notamment aussi aux États-Unis, en Amérique du Nord, si on va y faire un tour. C'est un genre de syndrome de la Tour Eiffel, en fait, en quelque sorte, ou de la langue romantique. C'est en tout cas souvent la raison évoquée par les gens qui apprennent la langue. Mais alors, de manière plus anecdotique, j'ai aussi rencontré un professeur de français qui enseigne dans le nord-ouest américain, dans l'Oregon, et qui m'expliquait qu'elle avait dans ses classes de nombreux élèves de la communauté religieuse des Quakers et que beaucoup d'entre eux souhaitaient apprendre le français afin de pouvoir participer à des missions religieuses dans les pays d'Afrique francophone.
Ah oui, effectivement, là ça devient indispensable. C'est finalement assez difficile d'avoir une idée globale des raisons qui poussent des personnes aussi différentes à apprendre le français.
C'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'on a un bon baromètre, c'est aussi de regarder les offres de cours proposées par les alliances françaises et les écoles de langue un petit peu partout dans le monde. En fait, à chaque fois, elles proposent des offres qui répondent à des demandes bien particulières. Si on regarde par exemple au Mexique, on a vu fleurir ces dernières années de nombreux cours intitulés « Apprendre le français pour immigrer au Canada ». C'est une vraie réalité pour les Mexicains qui cherchent à quitter leur pays. Alors que si on prend par exemple un pays comme l'Argentine, là-bas ce seront davantage des cours de français proposés autour des métiers de bouche qui ont du succès. Alors on va trouver beaucoup de cours de français de la pâtisserie, le français du vin ou de la restauration.
On imagine bien les débouchés professionnels derrière, mais on peut aussi apprendre le français par plaisir.
Heureusement. Hein. Et ce fut le cas notamment pour Alexandra. Alors elle habite en Biélorussie et déjà toute petite, elle était attirée par les sonorités du français qu'elle imitait un petit peu en s'amusant avec ses copines. Et maintenant, pour elle, parler français, ça lui permet de pouvoir dire des choses qu'elle ne pourrait tout simplement pas dire dans sa langue.
Par exemple, si on prend les relations entre les garçons et les filles, c'est trop dur pour moi d'appeler un garçon mon cher, mon ange. Mais en français, c'est plus facile pour moi que de le dire en russe. En France, quand on se parle au téléphone, on se dit bisous, à plus tard. En russe, on ne le dit pas. On dit seulement salut, salut, on se revoit après. Mais on se dit jamais bisous.
Bisous, ça n'existe pas dans toutes les langues. Il y a baiser, mais bisous, c'est particulier.
Ouais, faut pouvoir le dire en français. En tout cas, c'est important pour Alexandra. Et puis, on ne peut pas terminer, bien sûr, ce tour du monde sans évoquer le cas particulier du Canada, qui est donc partiellement francophone. Il faut garder en tête que la défense de la langue française a pris et prend encore parfois des aspects de bataille quotidienne. Et ce fut le cas pour Christiane Duchesne, qui a quelques souvenirs d'enfance qui l'ont vraiment marqué.
Quand j'étais toute petite, on allait dans les grands au magasin avec ma mère qui était très, 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 très indépendantiste. Et on pouvait attendre habillé en habit de neige l'hiver à crever de chaud dans nos habits d'hiver dans le magasin. Ma mère pouvait attendre une demi-heure que quelqu'un arrive qui soit capable de la servir en français. Elle refusait de faire servir en anglais. Ça, c'était les petites batailles quotidiennes.
Oui, comme quoi, c'est pas toujours simple d'être francophone. Hein.
Effectivement, mais comme le disait une récente campagne aux États-Unis, « The world speaks French ». Alors, why don't you?
Ça. Moi j'ai retenu surtout le syndrome de la Tour Eiffel. Hein. De quoi vous souffrez? Le syndrome de la Tour Eiffel.
Ça arrive à beaucoup de gens, il faut faire attention.
Toutes mes excuses. Merci Mathilde Landier.